6 janvier. Alors pour vous, Joe Biden, qui commence en difficulté lors des primaires démocrates et qui se retrouve président élu aujourd'hui, à quoi imputez-vous cela?
Écoutez, Abdourahmane, vous dites en difficulté pendant les primaires, il était quasiment...
Au tout début.
Au tout début, il était donné quasiment pour mort, sans figurer, bien entendu, en termes de campagne. Quand on est arrivé aux primaires en Caroline du Sud, il était considéré comme n'étant plus un candidat viable. Et au fond, il a été ressuscité par quoi? Il a été ressuscité par la communauté noire, la communauté africaine-américaine, notamment les femmes en Caroline du Sud, avec bien entendu le soutien de Clyburn, ce congressman noir qui a appelé à voter pour lui et qui est très influent en Caroline du Sud. Donc en fait, et il le dit lui-même, Joe Biden, il doit sa victoire d'abord aux primaires et ensuite même à l'élection générale, principalement aux minorités et aux noirs en particulier.
Alors Timothée, plus de 159 millions de personnes qui ont voté malgré la pandémie de COVID-19, c'est historique. Quels sont selon vous les facteurs qui ont contribué à ce chiffre record dans un contexte difficile?
Il faut dire, Abdourahmane, que la vie politique ici aux États-Unis était extrêmement polarisée tout au long de l'administration du président Trump. On avait le président Trump et sa base d'inconditionnel qui était prêt à le soutenir jusqu'au bout. Et de l'autre côté, une coalition qui s'est mobilisée pour battre en brèche le programme du président Trump. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a connu un afflux exceptionnel aux urnes de part et d'autre. La mobilisation a été très enthousiaste et c'est ce qui explique ce nombre record d'électeurs qu'on a vu cette année.
Et René, la pandémie a certainement marqué l'année, malgré les élections. C'est la grande actualité, c'était aussi la pandémie, le pays étant le plus touché au monde. Des premières mesures de confinement au mois de mars jusqu'à l'administration des premiers vaccins ces derniers jours. Comment est-ce que vous analysez cette période pour les États-Unis?
Écoutez, Abdourahmane, c'est une période très particulière parce que, c'est un événement qui arrive quoi? La dernière fois où on s'est retrouvé dans une telle situation, cela remonte à il y a un siècle, 100 ans. Donc franchement, c'est une situation pour être historique. L'année 2020 est vraiment une année historique de ce point de vue-là. Alors, il est évident également que cette pandémie a eu un rôle dans ce que disait tout à l'heure Tim par rapport à l'élection. C'est qu'au fond, le vote par courrier a peut-être participé, a peut-être contribué à faire en sorte qu'il y ait eu plus de votants qu'il n'y en a d'habitude, puisqu'il y a eu un taux de participation record cette année, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. Donc je crois que la pandémie est un facteur essentiel dans les questions de santé. On parlait tout à l'heure, je faisais référence aux minorités qui ont beaucoup aidé Joe Biden. Mais écoutez, quelque part aussi, ce sont elles les principales victimes de cette pandémie. Vous savez qu'à 2,5 fois plus, elles sont victimes soit en termes de mort, en termes de contamination ou d'hospitalisation.
Et Tim, la pandémie a forcé les entreprises de façon générale à s'adapter rapidement. Et pour ce qui est des médias aussi, il fallait continuer à informer le public. Comment cela s'est passé, ce basculement pour la Voix de l'Amérique, surtout pour le service francophone? Quels ont été les défis, mais aussi les opportunités?
Alors c'est quelque chose, une expérience que nous ne sommes pas prêts d'oublier de sitôt. Et du jour au lendemain, on nous a informé qu'il fallait que tout le monde travaille à partir de la maison. D'habitude, quand il y a de nouvelles technologies, on a des semaines de formation par groupe, on prend tout le temps. Cette fois-ci, on a dit tout le monde travaille à la maison à partir de la semaine prochaine. Et du coup, chacun a dû s'y mettre pour essayer de comprendre comment fonctionne Zoom ou les autres logiciels, comment enregistrer une interview audio ou vidéo sur Internet. Donc, ça a été vraiment un moment très, très difficile. Beaucoup de stress de part et d'autre.
Surtout que c'était une année électorale.
En plus, c'était l'année électorale, donc il fallait vraiment être prêt et on a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'y faire, mais maintenant on y est et les gens réalisent qu'en fait on peut être beaucoup plus productif à partir des nouveaux moyens que nous avons appris à maîtriser. Et je crois que personne ne va maintenant retourner à l'état précédent. Tout le monde est tourné maintenant vers les nouvelles technologies et on est en train de les explorer pour voir comment elles peuvent faciliter le travail.
Alors, d'une tentative de destitution du président Donald Trump à un large programme d'aide aux ménages, les législateurs américains n'ont pas chômé en 2020. Ajoutez à cela les élections présidentielles où beaucoup ont dû travailler et voter à distance en raison de la pandémie du nouveau coronavirus. C'est un récit de Blanche Salon.
Un troisième procès en destitution de l'histoire américaine a eu lieu au Sénat cette année et le président Trump a finalement été acquitté des accusations selon lesquelles il avait mobilisé l'aide américaine en Ukraine pour cibler son rival politique Joe Biden.
Le président des États-Unis n'est pas coupable comme l'inculpe le premier article de mise en accusation. L'histoire pourrait ne pas s'en souvenir ou cela pourrait être une note de bas de page, mais je pense que les démocrates essaient de jeter les bases ou du moins ils ont décidé que ce président méritait d'être destitué.
Mais la pandémie de coronavirus a rapidement submergé le débat politique. À la fin du mois de mars, les verrouillages pour arrêter la propagation du virus avaient mis en danger l'économie américaine, poussant le Congrès à adopter le plus vaste programme d'aide de l'histoire américaine. L'adoption de la loi CARE de 3 000 milliards de dollars a été l'un des rares moments d'entente en 2020. Mais la frustration a continué lorsque les législateurs n'ont pas réussi pendant des mois à s'entendre sur une autre série d'aides du COVID-19. La loi des démocrates sur une autre aide de 3 000 milliards de dollars a échoué car les républicains ont mis en garde contre les dépenses excessives.
Je ne pense pas que la situation actuelle exige un paquet de plusieurs milliers de milliards. Les dépenses doivent être bien ciblées.
En octobre, la juge Amy Coney Barrett a été confirmée à la Cour suprême des États-Unis par le Sénat à majorité républicaine, malgré les objections démocrates.
La majorité républicaine du Sénat a décidé de contrecarrer la volonté du peuple et de confirmer une nomination à vie à la Cour suprême au milieu d'une élection présidentielle.
Cette élection a choisi le prochain locataire de la Maison-Blanche, le démocrate Joe Biden. Mais 2020 s'est clôturé avec plus d'incertitudes à Capitol Hill. Le second tour des élections en janvier 2021 pour les deux sièges du Sénat dans l'État de Géorgie décidera quel parti contrôlera le Sénat pendant les deux prochaines années. Une seule victoire suffira aux républicains qui ont déjà 50 sièges sur 100.
Oui, merci beaucoup Blanche. Alors René, on le voit cette année au Congrès, il y avait certainement un agenda chargé, mais on a surtout le procès en destitution de Donald Trump et la confirmation de Amy Coney Barrett à la Cour suprême, qui a fait basculer la Cour totalement à droite, hein, plus à droite en tout cas. Comment est-ce que vous avez analysé ces deux événements?
Écoutez, c'était deux événements d'un point de vue politique qui étaient extrêmement importants, qui étaient très conflictuels par nature. Le premier, la procédure de destitution de Donald Trump, on ne peut pas être plus conflictuel que cela. Et le deuxième également, comme vous le dites, la nomination posait d'autant plus de problèmes que Barack Obama, qui s'est retrouvé dans une situation similaire, mais avec dans un délai par rapport à l'élection beaucoup plus long, s'était vu refuser la personne qu'il avait nominée à l'époque, parce que justement les républicains disaient à l'époque, écoutez, on est dans une année électorale, il n'est pas question que le président puisse nommer quelqu'un à la Cour suprême. Et ben ça a été fait, les républicains quelque part se sont dédits. Et ça a été fait cette année avec Trump. Alors, et là, c'était directement pendant même la campagne électorale. Donc, on ne pouvait pas être plus conflictuel que cela. Donc, c'était deux événements très, très conflictuels, même si on prend le standard de l'administration Donald Trump, qui a été une administration globalement assez conflictuelle sur beaucoup d'aspects.
Tim, le décès de la juge Ruth Bader Ginsburg à quelques semaines des élections a animé davantage le champ politique. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi la nomination d'un juge à la Cour suprême ici aux États-Unis est toujours un événement qui mobilise la gauche et la droite?
Alors, Abdourahman, c'est déjà un événement parce que cela n'arrive pas tout le temps. Il y a 9 juges qui sont nommés à vie. Et le seul moment où on peut nommer un autre juge, c'est si un juge décide de, lui-même de, d'aller à la retraite, ou bien, comme dans le cas de la juge Ginsburg, si le ou la juge décède, à partir de ce moment, c'est une opportunité pour le président de la République de nommer son remplaçant ou sa remplaçante. Et il est clair que c'est la plus haute instance judiciaire du pays et qui se prononce en dernier ressort dans toutes sortes d'affaires dont tout le monde tient à ce que le juge qu'il nomme à la Cour suprême puisse refléter son point de vue idéologique. On parle toujours de juge de gauche ou de droite, conservateur, libéral. C'est un débat qui est très intense ici aux États-Unis. Mais les juges eux-mêmes disent qu'en fait, ils ne sont ni les juges d'Obama, ni les juges de Trump, mais ils sont avant tout au service du peuple américain, au service de la justice. Cela n'empêche pas que leur nomination donne lieu toujours à une chaude empoignade entre la classe, les groupes politiques ici aux États-Unis.
Malheureusement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin parce qu'il faut qu'on parle rapidement aussi de George Floyd, la mort de George Floyd qui a été un grand événement cette année. Votre lecture à tous les deux avant qu'on passe aux commentaires Facebook, René.
Oui, écoutez, Abdourahman, George Floyd, ça a été un événement absolument important, non seulement ici aux États-Unis, mais également à l'échelle planétaire, puisque le mouvement Black Lives Matter, qui a été un mouvement de contestation des abus policiers, de revendication de droits civiques des Noirs et des minorités ici aux États-Unis, a eu un écho très important en Europe, un peu en Asie et même en Afrique. Donc c'était vraiment un des grands moments effectivement de l'année 2020.
Tim?
Oui, Abdourahman, ce qui m'a frappé avec la mort de Floyd, c'est cette mobilisation des Américains, toutes races confondues. Et c'est un phénomène vraiment exceptionnel. Par le passé, il y a eu des manifestations contre la violence policière, mais cette année, exceptionnellement, on a vu des Américains de toutes les races se mobiliser pour dénoncer la mobilisation, les violences policières et réclamer des réformes.
Alors nos téléspectateurs ont aussi beaucoup suivi cette actualité américaine au cours de l'année 2020. Nous avons Roméo Djitohou au Niger, il ne précise pas sa ville. Il dit « Moi, j'ai un jugement mitigé sur la diplomatie américaine avec ce président. » Jean-Claude Ngala à Kabungu en République démocratique du Congo écrit « Grand merci à la diplomatie de Trump pour les avancées significatives en Afrique, précisément en RDC, et que le nouveau président puisse embellir l'image des États-Unis dans le monde. » Et Alphonse Mbouaki à Kinshasa nous dit « L'année fut émaillée de violences policières contre les Afro-Américains et des émeutes divisant le pays entre, d'un côté, les républicains soutenus par la droite extrémiste et de l'autre, des démocrates soutenus par la gauche radicale. » Voilà donc quelques-uns des commentaires de nos téléspectateurs sur la page Facebook de VOA Afrique. Merci de rester fidèles. Washington Forum revient après une courte pause. heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Je rappelle mes invités, René Lec, analyste politique ici à Washington, et Timothée Donangbaye, chef du service francophone de La Voix de l'Amérique, ici donc à Washington. Le président américain Donald Trump a obtenu des accords de normalisation diplomatique entre Israël et les pays arabes au cours de son mandat, mais il quitte ses fonctions dans un contexte de tensions renouvelées avec l'Iran, surtout après l'assassinat d'un scientifique nucléaire. Faisons le point sur le bilan de la politique du président Trump pour le Moyen-Orient et les défis diplomatiques qui attendent le président élu Joe Biden. C'est un récit de Jacques Aristide.
Les accords d'Abraham normalisant les relations d'Israël avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, signés en septembre dernier, sont considérés comme la réalisation la plus importante du président Donald Trump au plan de politique étrangère.
Après des décennies de divisions et de conflits, nous marquons l'aube d'un nouveau Moyen-Orient.
Les accords ont modifié la perception régionale datant de plusieurs décennies, selon laquelle la paix arabo-israélienne ne peut être réalisée sans aborder la question de la création d'un État palestinien. Ils reflètent également l'amélioration des relations d'Israël avec ses voisins arabes face à l'Iran, un ennemi commun affaibli par la campagne de sanctions maximale de Trump. Le président élu Joe Biden s'est dit en faveur que davantage de pays reconnaissent Israël, avec une mise en garde toutefois pour ce qui est du sort des Palestiniens.
Je crois également qu'Israël doit être prêt à œuvrer pour une véritable solution à deux États.
Biden a promis de revenir à l'accord sur le nucléaire iranien que Trump a quitté en 2018. L'accord suspend le programme nucléaire de Téhéran en échange d'un allègement des sanctions. Le plan pourrait être compliqué par le récent assassinat du plus grand scientifique nucléaire iranien. La Maison-Blanche n'a pas condamné l'attaque que Téhéran attribue à Israël. Alors que Trump préfère les relations bilatérales souvent basées sur des liens personnels avec des dirigeants étrangers, Biden devrait adopter une approche plus multilatérale pour engager ses alliés. Néanmoins, les analystes ne s'attendent pas à un changement fondamental de la politique américaine dans la région.
Mais certainement un ton différent et un type d'engagement différent. Je pense que les gens, en particulier ceux qui sont actifs dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie dans la région, attendront avec impatience que ces deux questions redeviennent importantes pour les États-Unis, non pas pour promouvoir de manière agressive, mais au moins pour soutenir.
Comme Trump, Biden s'est engagé à mettre fin aux sempiternelles guerres au Moyen-Orient et en Afghanistan, en se concentrant uniquement sur les groupes terroristes d'Al-Qaïda et l'État islamique, et la fin du soutien à la guerre menée par l'Arabie Saoudite au Yémen, les analystes préviennent qu'une diminution de la présence militaire dans la région a des répercussions.
Cela pourrait entraîner une influence réduite au Moyen-Orient et du coup une résurgence de l'ONU. Ce pourrait être nos ennemis qui entrent en jeu au Moyen-Orient. Il y a donc beaucoup de choses à considérer, lesquelles le président va devoir affronter dans l'année à venir.
Au cours de ces premiers mois, Biden va probablement se focaliser sur la riposte américaine à la pandémie de COVID-19, y compris la distribution de vaccins, déléguant une grande partie de la politique étrangère à son choix au poste de secrétaire d'État. Anthony Blinken a travaillé avec Biden pendant près de 20 ans, y compris sur les politiques au Moyen-Orient, avec des résultats mitigés en Égypte, Irak, Syrie et en Libye.
Voilà, merci beaucoup Jacques et René. Certains saluent ce qu'ils appellent le succès diplomatique de l'administration Trump au Moyen-Orient, faisant référence à la normalisation entre Israël et quatre pays arabes. Mais d'autres craignent que Biden hérite d'une situation encore plus compliquée au Moyen-Orient pour ce qui est de l'Iran notamment. Quelle est vous votre analyse?
Oui, écoutez, je pense que c'est tout à fait exact. Les accords entre Israël et Bahreïn et les Émirats arabes, et d'une part et d'autre part avec le Soudan, ont été salués à gauche comme à droite ici aux États-Unis. Mais le fil conducteur, le lien entre les différents éléments de la politique Trump au Moyen-Orient, c'est une politique extrêmement agressive, anti-iranienne. Donc c'est ça en fait le fil conducteur. Et je ne pense pas que cette politique va être poursuivie par Joe Biden, en tout cas certainement pas sous les formes et le niveau d'agressivité actuel. Et vous l'avez dit, souligné dans le reportage tout à l'heure, que Joe Biden entend très très rapidement, si les conditions le permettent bien entendu, retourner à l'accord antinucléaire avec les Iraniens. Et ça en fait, ce sera la question centrale. S'il arrive à régler cette question-là, je pense que cela va ouvrir une bonne partie de possibilités par rapport à sa stratégie pour le Moyen-Orient.
Mais Tim, vous ne pensez pas qu'il est un peu dans une situation un peu plus compliquée qu'il ne s'y attendait?
Il est clair que le président élu Joe Biden a conscience qu'un retour à l'accord nucléaire avec l'Iran ne sera pas aisé. Et les Iraniens, ils ont quand même cet atout d'avoir été indirectement soutenus par les autres pays de cet accord-là, qui ont refusé d'abandonner l'accord après la sortie du président Trump. Donc, c'est clair que les Iraniens vont jouer très dur. Ils vont vouloir extraire le maximum de concessions des États-Unis avant d'accepter que les États-Unis retournent à cet accord. Donc, c'est ce qui fait que le président élu Joe Biden soit un peu silencieux sur ce point-là jusqu'ici.
On va terminer quand même avec l'Afrique, même si l'Afrique n'a pas été très présente dans cette campagne électorale ici aux États-Unis. Qu'en est-il pour vous, René, de la politique africaine des États-Unis, notamment sur les plans sécuritaires et économiques, aussi bien pour Trump que pour l'administration à venir?
Oui, tout à fait. Il y a quelques mois, je me souviens, il y avait un journal économique, un magazine économique qui titrait « États-Unis, Afrique, sous Trump, les années perdues, 4 années de perdues ». Donc, quelque part, il y a, je ne sais pas, dépendant bien entendu de comment on analyse la question, c'est un titre que j'ai trouvé assez pertinent. Je vous donne quelques chiffres que j'ai souvent présentés, y compris, je crois, sur votre plateau, Abdou Ahmad. À l'époque de Obama, 2010-2011, on tournait autour de 100 milliards de dollars par an d'échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Afrique. Avec Trump, 2019, on est tombé à 57-58 milliards par an. Donc, littéralement, la moitié. Donc, je crois qu'avec une administration Biden, ils vont réengager un peu plus l'Afrique. On retrouvera les taux des années Obama.
Oui, mais Tim, c'est assez surprenant puisqu'on avait quand même Michael Bolton qui était pendant un moment le directeur de la sécurité nationale au niveau de Trump, du conseil de la sécurité nationale de Trump, qui avait mis en place une stratégie pour contrer la Chine en Afrique, et on avait parlé d'un plan massif d'investissement en Afrique. Comment est-ce que vous voyez un peu l'Afrique et les États-Unis entre les deux administrations, celle sortante et celle qui va venir?
Je crois que sous l'administration Trump, les questions de sécurité en Afrique ont pris le dessus de la situation économique. On a vu un appui sécuritaire au pays du Sahel, par exemple, avec cette base de drones au Niger et la fourniture d'équipements à différents pays de la région. Quand on voit les Africains aujourd'hui et leurs attentes, c'est surtout au plan économique, la situation dans beaucoup de pays ne tient pas et les gens veulent que les États-Unis apportent un concours pour relancer l'économie, créer des emplois, assurer la formation professionnelle. Il y a beaucoup d'attentes de ce côté et je pense que la nouvelle administration en tiendra compte dans sa politique africaine.
En tout cas, nous merci beaucoup à mes deux invités. Nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci également à vous qui avez suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique, sans oublier nos télépartenaires sur le continent. Je remercie toute l'équipe technique. À très bientôt. Au revoir.